France Inter.
Bienvenue dans La Régulière, l'émission de toutes les cultures. Ce soir, on reçoit une légende vivante du sport français, une icône qui a traversé 4 décennies de handball, 3 titres olympiques, une carrière jalonnée de records, de blessures, de renaissances et une place unique dans l'imaginaire collectif, celle d'un champion total. Nicolas Karabatic est avec nous à l'occasion de la sortie de son autobiographie « Ma plus belle victoire », un livre dans lequel il revient sur cette trajectoire incroyable, les années Montpellier, l'aventure barcelonaise, l'épopée parisienne, les bleus, les joies immenses et les tempêtes traversées, mais aussi le l'homme derrière le joueur, ses doutes, ses combats, ses convictions, son rapport au corps, au temps, à la transmission. On va donc parler de sport, évidemment, mais aussi de culture, de vulnérabilité et d'héritage. Nicolas Karabatic est notre invité, ce soir, à La Régulière.
France Inter. À La Régulière. Mehdi Maizi.
Comment ça va, Nico ?
Salut Mehdi, ça va très bien.
Déjà, je voulais m'excuser parce que j'ai dit handball.
Je voulais pas.
Tu peux.
Je voulais pas te faire la remarque. Je voulais pas te froisser.
En le disant, j'ai voulu m'insulter.
non.
Mais c'est des années. Tu sais, c'est comme quand tu dis Reebok au lieu de Reebok. Tu vois, c'est des années voilà. Ou ouais. Scott au lieu de Shot.
T'inquiète. En même temps, c'est cool. C'est notre particularité. On est le sport où on dit pas ball. On dit ball.
Exactement.
C'est les Allemands qui l'ont inventé.
C'est vrai. D'ailleurs, tu y as joué. On va y revenir. Tu as arpenté ce pays et tu es présent quand même dans la pop culture et notamment alors en lisant le livre, donc le livre que tu sors, on se rend compte aussi que tu as quand même un rapport particulier avec la musique, avec le rap, et le rap te le rend bien car il t'a beaucoup cité dans les textes de rap, par exemple Dinos dans le morceau À propos de ça.
Ouais, vraiment trop. Je tiens qui damas si t'attaques ma clique. Chez nous les experts, c'est pas Horatio Kane, c'est Karabatic. Tout le temps
fric. Ou encore Rémi sur Motel.
On n'est pas tombé pour un bout dans l'escalier, t'entends. On fait de la performance, on est pas. T'es avec Dinero, on revient mettre du tch. Sur une grosse bécane, l'avant-bras, Karabatic. Y'a besoin de maille.
Ou plus récemment, Joe Lagrin.
Ouais, je te renvoie là le bateau comme Karabatic. Mode feu, automatique.
Est-ce que tu connaissais ces morceaux et est-ce que tu te rends compte que t'es quand même pas mal cité dans le rap ?
Bah là tu vois le dernier, je les avais entendus, le premier, le dernier Joe, je savais pas, donc
okay.
Je viens de découvrir et ça fait bizarre. Ouais. Je viens de vivre l'émotion là en live.
L'émotion réelle.
De waouh, mon nom a été cité dans pas mal de morceaux, c'est incroyable.
Et notamment par aussi des gens de générations différentes, parce que je viens de citer Joe Lagrin, qui est un artiste qui est très très récent, qui est un artiste jeune. Dans ce livre-là, justement, tu parles notamment, bien sûr, de, je pense, à la prise de conscience que tu as appris aussi quand tu te rends compte que t'es quelqu'un qui a pu inspirer des gens. Pas uniquement être une référence ou un sportif respecté, mais quelqu'un à un moment qui va inspirer des personnes. Qu'est-ce que ça signifie, ça, quand on se rend compte qu'on est une personnalité inspirante ?
On s'en rend compte assez tôt, quand on commence à recevoir des messages. Moi, j'ai grandi dans les années 2000, donc au début, c'était des lettres à la maison. Puis après, il y a eu Facebook. Tu as eu des messages sur Facebook d'admirateurs, des trucs comme ça. Donc, tu t'en rends compte assez vite. Mais en même temps, d'une certaine manière, en tout cas, je parle de mon expérience, tu te blindes, parce que ça peut vite t'impacter, ça peut te mettre énormément de pression sur les épaules, et ça peut te pousser à agir d'une manière qui n'est pas la tienne. Donc tu te mets un peu dans une bulle, donc c'est ce que j'ai fait pendant longtemps. Et après, avec l'âge, avec l'expérience, avec la vie, t'as des enfants, t'as traversé énormément de choses, tu comprends ta relation à tes parents, aux personnes qui t'ont inspiré. Là, tu dis, ok, là, maintenant, je suis prêt. J'ai compris certaines choses, je suis prêt à l'accepter, à l'embrasser et à être OK avec ça et surtout à être OK avec le fait que j'ai pas peur de dire une connerie ou de dire quoi que ce soit, d'être moi-même tout en sachant que ça va toucher du monde, que ça va peut-être impacter positivement, négativement. Mais voilà, maintenant, oui, j'en ai pris conscience et au final, c'est la plus grande des responsabilités, des pouvoirs, de se dire waouh, avec. Un match avec un mot, avec quelques mots, une minute passée avec des grands, des jeunes, des un peu plus vieux, tu peux leur passer un
changer quelque chose.
Ça peut changer, ça peut les inspirer, leur planter la petite graine. Donc ça c'est assez fou.
Tu as parlé bien sûr de tes parents, notamment de ton papa qui était lui aussi un joueur de handball professionnel, qui a même joué dans l'équipe yougoslave, etc. Et on comprend quand même que, au travers de la lecture de ce livre, qu'en fait, t'as aussi voulu être bon en hand pour lui, quelque part. C'était aussi sûrement une manière de de chercher son amour que tu avais quoi qu'il arrive. D'ailleurs, tu le comprends dans le livre, tu l'expliques à un moment, mais que finalement, c'était... Est-ce que c'est d'abord pour lui que tu t'es donné autant dans ce sport ?
Eh bien, en faisant le livre, en le co-écrivant avec Basile, Lota, ouais. C'est ce que j'ai compris aussi. C'est plus tard que tu commences à te poser des questions sur ta vie. Au début, quand t'es jeune, tu fonces, tu vas tout droit.
Oui,
donc,
oui.
Pour moi, c'était le destin, c'était voilà, ma mission. Mais en analysant, en me disant après coup, comment j'ai fait au final pour réaliser tout ça, pour aller au bout de mes rêves, j'ai compris qu'il y avait une grande partie qui était liée à ma famille, à mon frère, ma mère, mon père, et beaucoup à mon papa, parce que, comme tu l'as dit, il a été international yougoslave, ça a été après mon coach plus jeune, mon prof de sport à l'école, la personne avec qui je partais pendant les vacances pour faire les centres aérés de la ville de Frontignan, là où j'ai grandi. Donc j'ai compris que ce que j'ai fait, je l'ai aussi fait par rapport à mon père pour l'impressionner, pour aller chercher son amour, même s'il ne m'a jamais mis de conditions pour le rendre fier de moi. Et ça a été un moteur d'une puissance incroyable.
Est-ce qu'il était... Parce que parfois, on a des histoires, tu sais, de grands champions qui nous racontent que leur père était très, très dur. On le voit très bien dans le documentaire sur David Beckham, Thierry Henry, dans le football, a beaucoup raconté ça aussi, comment son père pouvait être parfois très exigeant avec lui. Est-ce que c'était le cas avec toi ou est-ce qu'au contraire, il était plus, pas laxiste, mais en tout cas plus cool ?
Eh bien, il avait presque une double facette. Il avait un côté hyper exigeant sur certains points, des points, tu vois, des valeurs de travail, de respect, de se donner à fond dans ce qu'on faisait. Et en même temps, il avait cette facette cool, souriant, hyper chaleureux, hyper bienveillant. Donc c'était un paradoxe. Et en même temps, moi, ça m'a appris tellement de choses. Ça m'a donné, voilà, il m'a guidé, il m'a parce que ça venait de moi aussi, que j'avais cette volonté au fond de moi. Je l'ai même verbalisé très tôt, papa, je vais être meilleur joueur au monde.
Et oui, ça c'est fou.
C'est pas venu de lui, tu vois. Donc, il me l'a pas imposé. Je me le suis auto-imposé, peut-être par rapport à lui, pour le rendre fier, comme ce qu'on disait. Mais il m'a accompagné. Et à ce moment-là, il s'est dit, OK, tu veux ça. Donc, si tu veux arriver là, pas de problème, tu peux. Tu peux, tout est possible dans la vie. Mais il y a ça à faire. Et je vais t'accompagner. Et donc, il y avait surtout les ça à faire. Là, c'était exigeant. Il était exigeant et dur et tout ça. Mais en même temps, une fois qu'on sortait de ça, hyper bienveillant.
Okay.
Il faut vivre sa vie, il faut prendre du plaisir. C'était pas en mode dur.
L'ambiance n'était pas dure à la maison. Oui,
ouais, c'était pas dur à la maison, mais il y avait beaucoup d'exigences.
Alors, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que ton père était gardien, si je dis pas de bêtises. Pourquoi t'as pas voulu occuper le même poste que lui ?
Si, je kiffais être gardien de but.
Okay.
J'adorais ça, être dans les cages, arrêter les ballons. En plus, gardien de but, c'est spectaculaire.
Ouais.
Les mecs, ils se prennent des tirs à 120 km/h, à 3 mètres de leur tête. Ils explosent, c'est super beau. Et puis, le poids d'un gardien de but dans une équipe, c'est impressionnant. Hein. T'as un bon gardien, tu peux voyager, tu peux gagner un milliard de titres. Et nous, on a eu des grands gardiens, Thierry Omeyer, Vincent Gérard après. Ça a été des assurances tout risque. Mais à chaque fois que je lui dis j'y allais, il me sortait. Non, tu fais pas gardien.
Il voulait que tu joues.
Ouais.
Ok.
Je pense qu'il devait avoir peur un peu peut-être de la comparaison et du truc de se dire on va le comparer
à moi.
Ça va être peut-être un poids pour lui. C'est ce que je me dis maintenant. Et en même temps, maintenant, je suis content de pas avoir été gardien parce que sur le terrain, c'était quand même cool.
Ouais. Juste avant d'écouter un morceau, tu l'as dit, tu as formalisé très rapidement l'envie d'être le meilleur joueur du monde. Il s'avère que tu l'as été à plusieurs reprises, ça a été le meilleur joueur du monde à plusieurs reprises. Moi, c'est quelque chose qui me fascine parfois chez les grands sportifs, cette espèce d'ambition et de se fixer des objectifs aussi fous et de les atteindre. Qu'est-ce qui fait que, tout jeune, tu te dis « je vais être le meilleur joueur du monde » Parce que tu avais déjà des prédispositions, c'est vrai qu'on comprend dans le livre aussi que très tôt, on parle de toi comme un phénomène dans la région, etc. Il se passe quelque chose, mais de là à se dire « je vais être le meilleur joueur du monde », il y a... deux, trois étages quand même. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Comment tu arrives à formuler cette pensée-là ?
Ouais, je pense que c'est un mélange de plein de circonstances. Il y a, comme tu l'as dit, très tôt, je commence à avoir des aptitudes, et physiques, et techniques, de par l'entraînement, de par mon père que j'ai à mes côtés, je m'entraîne beaucoup. Et puis aussi un peu de logique A plus B que j'avais quand j'étais petit, et j'étais très cartésien, maintenant beaucoup moins.
Okay.
Où je me disais, je suis le meilleur à chaque fois que je joue contre des jeunes qui ont mon âge, ou même face à des jeunes qui ont un an de plus, deux ans de plus, et je suis aussi bon, voire meilleur qu'eux. Donc c'est logique que dans 10 ans, ben, je serais meilleur que tout cela. Parce que j'en ai pas encore rencontré un qui soit meilleur que moi.
Okay.
Et donc, il y avait un mélange de logique. Il y avait aussi le fait que ben, mes parents, ils m'ont jamais dit « ça va être trop dur, ne fais pas ça ». Ils ont toujours ouvert les portes, ils m'ont toujours expliqué qu'on peut voilà, rêver dans la vie et atteindre ses objectifs si on met beaucoup de travail, si on est dévoué à ce qu'on fait. Donc ça a été un mélange de tout ça, okay. De dévotion aussi, tu vois, c'était pas fanfaronné quand je disais je veux être le meilleur.
Mais c'était je vais travailler pour l'être.
C'était je vais l'être, j'ai ce truc au fond de moi, je suis dévoué à ma cause et je vais y arriver. Il n'y a pas d'autre possibilité, même si je préparais des plans... B, C, D, comme mon père disait, on peut se blesser très vite dans le sport, c'est vrai. Soit bon à l'école, ben j'étais bon à l'école, c'était une compète aussi.
Ouais.
Mais voilà, c'était une dévotion totale à mon objectif qui avait au fond de moi, c'était d'être le meilleur joueur au monde.
Même si on comprend que si tu n'avais pas été joueur pro, tu aurais sûrement été testeur de jeux vidéo. Voilà, c'est ce qu'on comprend aussi dans le livre. Je propose qu'on écoute un morceau, et je crois que c'est un morceau qui est important pour toi, car on lit dans le livre, donc ma plus belle victoire, que tous les étés vous alliez en Croatie. Vous retournez là-bas, là, qui est un pays qui est important pour vous, et qui a un morceau qui a particulièrement résonné pour toi, c'est le morceau Tonton du Bled de 113, qui raconte la manière dont Rimka, qu'on a reçu il n'y a pas longtemps, lui rentre en Algérie, et tu faisais un parallèle entre finalement la vie de Rimka et de bon nombre d'immigrés algériens, et la vôtre à l'époque. Je propose donc qu'on écoute ce classique de 113, produit par DJ Mehdi, Tonton du Bled.
Hé, tonton, les cabas, ils sont trop lourds.
Allez, monte dans la voiture, j'ai
dit. Regarde, Bilal, il s'en va.
Monte, Bilal, monte. Hé, Atmen. Allez, monte. Allez, on y va. Hé. Hé, mes Karim, tonton du bled.
Tonton du bled.
Pour tous les Miss Mourt. Bled ou Bledi.
Bledi.
504 breaks chargés. Allez, montez les neveux. Juste un instant que je mette sur le toit la grosse malle bleue. Nombreux comme une équipe de foot, voiture à ras du sol. On est les derniers locataires qui décollent. Le plein gasoil et gazous pour pas flancher. Bilal, va pisser. Le temps que je fasse mon petit marché. Direction le port, toujours le pied sur le plancher. Jusqu'à Marseille avec la voiture un peu penchée. Plus 24 heures de bateau, je sais c'est pas un cadeau. Mais qu'est-ce que je vais kiffer sur la place Vido? À Béjaïa City, du haut de ma montagne. Avant de rentrer Fedar, je fais un petit détour par Warlan. Vu qu'à Paris, j'ai dévalisé tout Tati. Je vais rassasier tout le village, même les plus petits. Du tissu et des bijoux pour les jeunes mariés. Et des jouets en pagaille pour les nouveaux nés. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas. Je suis sur la plage à Boulemat avec mon zinc et son derbouka dans la main. Un verre de Selecto, imitation coca. Une couche de Zizitoun sur le corps et sur les bras. Avec mon poste sur un fond de Zahouania. On parle de tout et de rien. Des Nike Air au Visa, de la traversée du désert au Boukouskous de Yema. Et mon cousin me dit
Karim, kiff les êtes là.
Il était tellement bon que j'ai jeté mon cirage en rat. Avec deux trois blédards, on tape la discussion. Mahmoud peut pas s'empêcher de dire que je suis dans la chanson. L'un d'eux me dit
moi je t'ai pas vu cette télévision.
Et l'autre me demande
Saha Taraf Michael Jackson.
Il parle trop vite et en argot de blédard. Je sais ce qu'il ferait pour une poignée de dinars, connard. Le soleil se couche et tout le monde rentre chez soi. C'est l'heure du repas et du latte. Pour d'autres, la chicha. J'ai passé un bon mois dans ce qu'on appelle le tiers-monde. Et si j'avais assez d'oseille, j'emmènerais tout le monde. Mais je peux pas fermer les yeux sur ce qui se passe vraiment. J'ai 10 morceaux aux disparus, aux enfants et aux mamans. Et je suis rentré à la cité,
Arbeya.
Content de revoir mes potos
et ma chebba.
Pendant deux semaines j'ai mangé
que de la charba.
J'irai finir mes jours là-bas, Inch'Allah.
J'irai
rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas.
S'il te plaît, vas-y, laisse-moi ramener mon scooter.
Bon, dans ce cas-là, je ramène mon 3 quarts alors. Bon, alors je prends tous mes CD, toutes mes cassettes. Bon, je prends rien alors. Bon, je me fais la boule au moins avant de partir. Je ramène la PlayStation. Bon, la télé du salon au moins. Tu crois que je vais aller là-bas pour me marier ou quoi?
Wa 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 wa
113, Tonton du Bled, un morceau classique présent sur l'album non moins classique, Les Princes de la Ville.
France Inter. Mehdi Maizi à la régulière.
Et ce soir, nous sommes avec Nicolas Karabatic pour la sortie de son livre Ma plus belle victoire. Donc, on parle beaucoup de sport, mais pas que dans ce livre. Mais là, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur le sport parce que, moi, quand j'ai commencé à voir notamment du handball à la télévision, c'était première génération un peu dorée de l'équipe de France, notamment menée par Jackson Richardson, qu'on présentait justement à l'époque comme le meilleur joueur au monde. Je trouvais ça fou qu'on ait un Français qui soit le meilleur joueur du monde, etc. Toi, quand tu fais ta première sélection en équipe de France, il est là. Qu'est-ce qu'il représente pour toi, peut-être aussi quand tu es jeune? On parlait juste avant d'écouter 113 de cette chose que tu formalises de dire « je veux être le meilleur joueur du monde ». Est-ce que le fait qu'un Français aussi l'était à ce moment-là, ça a pu te faire penser aussi que c'était possible pour toi?
Ah, tout à fait, clairement. Ouais. Le fait que Jackson ait été meilleur joueur du monde, champion du monde, ça a clairement fait. Et toute la génération des Barjots.
Les fameux Barjots.
Les fameux Barjots, ceux qui ne connaissent pas, c'était la première équipe de sport co français à être champion du monde en 1995. Et c'était des vrais Barjots. Les mecs se faisaient des coupes de cheveux de ouf.
C'est ce que tu expliques d'ailleurs dans le livre, c'est qu'eux n'avaient peut-être pas toujours une hygiène de vie aussi irréprochable que la tienne. Mais ça marchait malgré tout, ils gagnaient quand même. C'était vraiment une génération différente.
Ouais, et puis c'était le début du sport professionnel. Exactement, donc c'était vraiment la transition. En plus, le handball, c'est pas le foot, c'est pas le basket. C'est un sport un peu plus discret, sport de préau, d'école. Et donc c'était la transition de l'amateurisme vers le professionnalisme. Donc les mecs, il y avait beaucoup moins de matchs qu'aujourd'hui. Donc tu pouvais te permettre d'avoir une hygiène de vie différente. Et donc ils faisaient la fête, ils avaient les cheveux peroxydés en blond dès qu'ils gagnaient, ils se gravaient le nom du bar où ils allaient après 95, quand ils étaient champions du monde. Et donc Jackson a incarné cette époque-là. Il y a eu après lui Stéphane Stocklin qui a été meilleur joueur au monde aussi. Et clairement, ça m'a inspiré. Je me suis dit, je veux être comme ces gars-là, je veux gagner, je veux porter ce maillot bleu de l'équipe de France qui était magnifique, le maillot Adidas mythique avec lequel ils ont gagné. Je veux le porter et je veux le faire briller comme eux. Et je veux être le meilleur, je veux prendre un globe terrestre, je regarde et je veux être le meilleur. Je veux pas qu'il y en ait un qui soit meilleur que moi. C'était assez fou. Et donc j'avais ce truc-là de vouloir être le meilleur. Et après, bien sûr, avec le sport co, apprendre à être un leader, tout ça, je suis devenu plus collectif, tout ça. Mais au début, c'était une volonté individualiste.
Comment se passe ta première sélection en équipe de France ?
Ma première sélection, elle est assez folle, parce que je suis en équipe de France, à l'époque, on appelait ça jeune. Donc j'ai 18 ans, c'est les U18, c'est la première sélection que tu fais. Donc j'étais avec eux en stage à Rennes. Et l'équipe de France A, eux, ils étaient en tournoi préparatif pour les championnats du monde. Ils étaient en Suède pour un méga tournoi avec 5 matchs en 7 jours, que des grosses équipes, les meilleures équipes au monde. Et il y a un joueur qui se blesse, et moi j'arrive à l'entraînement avec les jeunes, et le coach me dit « Bon, les gars, on va s'entraîner, hein, il donne la séance. Toi, Nicolas, tu rentres à l'hôtel, tu fais tes affaires. » Il y a le DTN, Philippe Bana, qui vient te chercher, tu pars en Suède.
Le DTN, c'est directeur technique national.
Il est là pour venir te chercher, tu pars en Suède avec Léa.
Et 18 ans,
et je m'en souviens encore comme aujourd'hui. C'est ouf, quoi. C'est ouf, mon rêve qui se réalise. J'ai que 18 ans. Là, je prends l'avion, je pars là-bas. Bon, heureusement, j'en connaissais quelques-uns parce qu'il y en avait beaucoup qui jouaient à Montpellier, donc ça m'a un peu rassuré.
C'était ton équipe à l'époque.
Ouais, c'était mon équipe à l'époque. À Montpellier, il y avait beaucoup d'internationaux. Mais je me retrouve, du jour au lendemain, avec eux, avec Jackson à table. J'avais pas encore joué contre lui, je crois, et à être là comme un gamin. J'étais un gamin, j'ai 18 ans. Et des boutons là sur le visage, être là et le lendemain à jouer avec eux, et je mets mon premier but, c'est Jackson qui me fait la passe. Et
donc le rêve
et on gagne, on joue contre la Russie qui faisait partie des meilleures équipes, on gagne, le lendemain on joue contre le Danemark, en finale on les bat, je mets 3-4 buts, je fais un super match. Le soir je paye ma tournée avec mon argent de poche, j'étais même pas encore pro, j'avais pas d'argent. Et c'était fou, c'était incroyable.
Bon, incroyable. Et en tout cas aujourd'hui, ce soir, Nicolas Karabatic est notre invité dans La Régulière. Un peu après, l'année 2004 est importante pour toi. Tu es élu meilleur arrière-gauche en 2004. Tu participes aussi tu fais un très bon Euro 2004. Tu participes au JO d'Athènes en 2004. Une compétition dans laquelle tu regardes beaucoup de DVD. Et notamment un film que tu regardes beaucoup apparemment.
Oh putain ! Voici les 11 commandements de la blague que vous aurez à accomplir pour remettre les peuples dans le droit chemin de la rigolade !
Et n'oubliez pas, vous êtes maintenant en mission pour Dieu. Et rien ne doit vous arrêter.
L'Onze Commandements, donc film avec Michael Youn entre autres. Pourquoi je voulais qu'on en parle? Parce que je l'ai vu 3 fois au cinéma. J'étais ce genre de jeune adolescent à l'époque. C'est un film que tu regardais beaucoup, qui te détendait.
Je crois que c'était l'époque un peu Jackass.
Ouais, c'est ça, c'est Jackass en français, exactement.
Mika, c'est Jackass en français. Et je l'avais c'est moi qui l'avais ramené. Et on l'avait regardé tous ensemble dans le salon, parce qu'au JO, c'était pas dans des hôtels. En mini-colo, quoi. C'est des apparts. Ouais. C'est ça qui est incroyable dans le village olympique. L'expérience, elle est ouf. T'es dans des apparts et nous, on était dans un appart avec toute l'équipe de France. Donc, j'avais mis ça à la télé. On l'avait regardé ensemble. On s'était marré. C'était génial. Et petite anecdote qui est assez marrante. Au final, le nom Les Experts, parce qu'après, nous, notre génération, elle a été appelée Les Experts.
Exactement. D'où la phrase de Dinos qu'on a citée tout à l'heure. Voilà. Exactement.
Et ben, elle est liée d'une certaine manière à Mika Youn.
Ah bon ?
Parce que Benjamin Morgan.
Qui
faisait partie avec Vincent Desagna du Morning, et qui écrivait, qui a fait toutes les chansons
dans tous les films,
tous les trucs.
Ouais, ouais.
En fait, Ben Morgan, en 2006-2007, nous, avec l'équipe de France, on commence à râler après notre direction, la Fédé, parce que notre équipe n'est pas assez mise en avant, qu'il y a un déficit d'image et tout. Et on fait presque une grève, tu vois, de dire non, vas-y, on arrête, nos dirigeants, ils ne sont pas à la hauteur. On veut des mecs qui vont nous mettre en avant, qui vont travailler sur notre image. On a un sport de ouf, on vient d'être champion d'Europe, on venait d'être champion d'Europe en 2006, on est champion du monde 2 fois, enfin voilà. Et les mecs arrivent avec, ouais, on a une nouvelle, on a pris une nouvelle société qui va s'occuper du marketing, de vous marketer, et eux, ils ont une super idée, ils vont vous la présenter. Nous, on était en réunion, on était un peu vénère, et là, il y a Ben Morgan qui rentre dans la réunion, et j'en ai reparlé avec lui récemment.
Incroyable.
Nous, tous hyper vénères comme ça, il m'a dit, je suis rentré, je savais pas où me mettre, je flippais, et il avait une idée, il a créé des petites pastilles vidéo qui allaient nous mettre en scène avant les JO de 2008,
oui.
Qui allaient s'appeler les experts du handball. Et il avait pris des mecs qui faisaient des effets spéciaux, tout ça, et il nous a tous mis en avant d'une manière un peu différente. Moi, j'ai transformé en Hulk, Didier Dinard en géant, tu vois, tout ça. Et donc, les experts sont venus de
Incroyable.
Ben Morgan, qui a créé ces petites pastilles vidéo.
C'est fou, ça.
Et donc, elle est là, l'anecdote des experts. Et derrière, on est devenus les experts.
Pour toute
une génération. Et au final, même moi, j'avais oublié que le nom venait de là.
Venait de Benjamin. Il y a, tu parles de 2008, qui est une année aussi, une année de plus importante, où tu es élu meilleur joueur du monde. Il y a les JO, bien sûr, de Pékin. Et puis, il y a aussi quelque chose qui se passe, c'est que tu deviens une personnalité publique. Il y a, tu deviens égérie pour Ménen, etc. Est-ce que tu sens, à ce moment-là, peut-être, c'est aussi ce moment où il y avait peut-être un déficit d'image dont vous vous êtes plaint, que quelque chose se passe en termes d'image, en termes d'exposition pour le handball français, mais aussi pour toi. À ce moment-là, tu deviens une star du sport français, ce qui n'était pas forcément le cas avant, où même le hand était quand même un sport, effectivement, tu l'as dit, qui n'était pas aussi populaire que le football dans les années 90. Est-ce que tu sens un changement à ce moment-là?
Ouais, je pense clairement ça a été le début du changement, parce que ça s'est fait en quelques temps, en quelques années, mais avec ces Jeux Olympiques là à Pékin, comme tu l'as dit, moi je viens d'être élu meilleur joueur au monde, on est champion olympique, je crois qu'en plus il y a très peu de médailles d'or à ce moment-là sur ces JO, on est le dernier sport, on est la toute dernière épreuve, donc t'as beaucoup de Français qui regardent, et donc vrai qu'on... On crève le plafond et je sais même pas si on dit on crève le plafond.
On crève l'écran,
je suis pas. Très bon, hein, Jean-Michel à peu près. Bref, et ouais, ça lance le truc. Moi, je fais mes premières pubs, comme tu l'as dit, dans des magazines pour Ménen. C'est que c'était aussi les débuts de Facebook, tout ça.
Oui.
Moi, j'avais un agent, j'avais créé une page fan, j'avais fait un calendrier perso. Plein de trucs comme ça pour, justement, à travers mon image, médiatiser aussi le hand. C'était une de mes missions, parce que j'en souffrais quand j'étais petit, pas de voir mon sport à la télé. Et Jack l'avait ouvert avec les premières pubs pour Adidas, je l'avais vu, et je me suis dit, ça, je veux le faire aussi.
Oui, oui.
Et donc, ça a été le début, et après, l'apogée, ça a continué, mais les JO de Londres en 2012, ça, c'était incroyable.
T'as senti que là, vous étiez vraiment particulièrement attendu, regardé.
Là, on était particulièrement attendu, regardé. Là, moi, j'avais fait des pubs pour... Head & Shoulders, j'avais fait des pubs pour Visa, J'étais dans des pubs, les mêmes pubs qu'Usain Bolt. J'étais dans le village olympique, ça je le raconte dans le livre aussi. J'étais partout en affiche dans le village olympique, dans Londres aussi, avec Visa. Et comme dans le village, ils sont partenaires, tu peux acheter qu'avec Visa. T'avais les sachets des fan shops où t'avais tous les athlètes qui allaient, il y avait ma tête dessus. Donc je rencontrais parfois des athlètes, et là j'avais des athlètes chinois à côté de moi au réfectoire qui venaient de sortir d'acheter des trucs pour leur famille. Et j'avais ma tête sur leur sachet, et eux ils savaient pas qui j'étais. Et moi, genre, les gars, c'est... It's me, regardez, can we make a photo? Et donc c'était assez ouf parce que pour la première fois là, j'étais en pub télé, partout, plein de grosses marques comme ça qui étaient derrière moi, et c'était là j'ai ressenti pour la première fois ce truc de un peu starification.
T'as aimé cette partie-là, la starification?
Bien sûr,
ouais.
Bien sûr, celui qui dit qu'il n'aime pas, en tout cas, t'as un peu ce... paradoxe au sein de toi, et moi je le ressentais, ce côté ouais, c'est incroyable, je suis en photo, je suis dans des pubs télé, ce que je rêvais de faire quand j'étais petit. Je voyais la génération France 98, Marcel Desailly avec les phones, Zizou avec les chaussettes, et après Jack, comme je l'ai dit aussi, et donc il y a une partie de moi qui était hyper fière, ce côté ego trip, et un autre côté qui disait non, mais on est que du hand. Il faut faire profil bas, un peu cette peur aussi de dire non, mais faut pas trop, on est en France, donc faut pas trop montrer qu'on est fier et heureux et s'afficher parce que ben on a la culture un peu de la modestie. Donc ouais, il y a ce paradoxe, mais bien sûr que c'était une fierté incroyable, mais en même temps j'avais conscience de par l'éducation que j'avais reçue que il fallait faire un petit peu attention.
Je propose qu'on écoute un morceau d'un artiste, un jeune artiste s'appelle Ino Casablanca, que j'aime beaucoup. Je sais pas si tu le connais.
Je connais.
Eh ben écoute, parfait. Il s'appelle donc Ino Casablanca. Il a sorti un projet qui s'appelle Extasia il y a pas longtemps. Et là, sur ce morceau qui s'appelle Moula Solitude, il invite le rappeur Draganov. Et le morceau est juste extraordinaire. On l'écoute tout de suite.
Ma poitrine fait détonnant. Que je sois avec baby ou solo. Même proche de toucher le gros lot. Je porte en moi 100 000 mots. C'est pas glorieux de faire de son mieux. Je porte en moi 100 000 mots. Je prie mon Dieu, témoin des immondices. Soulage la peine qui dort en moi. Maman, j'arrête les études, même si ton cœur est en pierre. Je pars faire des écus. Me sentir moins mal qu'hier. J'ai pris l'habitude de me faire du mal, de m'oublier. Pour la solitude, pour me sentir moins mal qu'hier. On a grandi avec moins de câlins que la médiane. Si je te passe mon cœur, c'est pas pour de la dépanne. Toi t'es qu'un trou de balle, sponsorisé par du bruit buccal. J'mets long donc c'est pareil. Combien de bougs au moins? 35 heures avec week-end et galère. Auprès d'une RH, c'est pas la boîte de ton père que je vais foutre avec Caroline et Gérard. Après le taf, maman, j'arrête les études, même si ton cœur est en pierre. Je pars faire des écus pour me sentir moins mal qu'hier. J'ai pris l'habitude de me faire du mal, de m'oublier. Pour la solitude, pour me sentir moins mal qu'hier. Rafle casse pas carte. جاية وكان قاردي حتي الدنيا ما لبسات ليش لون واردي ام سلامة وشانتي كعرف قيم منك ما تشي سانسير طلعوا لي فكري باغي غيم جانتي سون كونتي شحال في الكونت بانكر طفلة عمرا بيليسيت توجا ما ينسيني فيك كان تفكر لي دواس ناسينيني انا وكاسي في البورت البيسين باي كيتشي بلا ماي شيري خليها غي بيناتنا دايرة نفهمنا طايرة اي 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 تشوفي كيراني غير كل نايت باش ننسى لي طالي ماما جارت لي زيتود ميم سي طون كور اي طون بيير جو بار فير دي زيكو بور مو سونتير مو مال كيير جي بري لابيتود دو مو فير دو مال دو موبلي مو لا سوليتود بور مو سونتير مو مال كيير ماما جارت لي زيتود ميم سي طون كور اي طون بيير جو بار فير دي زيكو بور مو سونتير مو مال كيير. Pour me sentir moins.
C'était Moula Solitude du rappeur Ino Casablanca.
France Inter, Mehdi Maizi, à la régulière.
Ce soir, je suis avec Nicolas Karabatic qui vient donc de sortir son livre, Ma plus belle victoire. Et avant de continuer à parler du livre, je voulais te parler d'un film qui sort cette semaine, qui a une histoire un peu particulière. C'est un film qui s'appelle Running Man. Je ne sais pas si t'as peut-être vu les affiches dans la rue. Donc c'est une nouvelle version d'un film qui est donc réalisé cette fois par Edgar Wright. Donc attendu, parce que c'est un film qui est porté par l'un des cinéastes les plus inventifs de ces dernières années et qui reprend un petit nanar, comme on dit, de la science-fiction dystopique sorti en 1987, mais dont l'histoire est bien plus complexe que ça, parce que Running Man, c'est à la fois un film avec Schwarzenegger, l'adaptation d'un roman de Stephen King et l'objet d'une vraie polémique dans le cinéma français, un cas d'école où la pop culture, la littérature et les droits d'auteur se croisent.
J'ai repensé au principe de l'émission. En fait, pendant 30 jours, le pays entier va chercher à me tuer. C'est dingue, non?
Les participants ne survivent jamais.
On n'a pas le choix. Il faut qu'on trouve de quoi payer un médecin.
Bienvenue dans Running Man. Les concurrents seront traqués pendant 30 jours. N'importe qui a le droit de vous tuer.
Traquez-le, bon Dieu!
Si vous survivez, vous repartirez avec un milliard de nouveaux dollars.
J'ai toujours cru que c'était évident.
Oh la vache!
Ça fait bien réel, là.
Bienvenue dans Running Man.
Donc ça, c'est un extrait de la bande-annonce donc, du nouveau, qui est avec Glenn Powell. Mais le point de départ, c'est un roman de Stephen King, donc publié en 1982 sous son pseudonyme Richard Bachman, ou Bachman, je ne sais pas comment on le dit, qui était un peu le pseudonyme qu'il utilisait quand il ne voulait pas vraiment assumer ce qu'il écrivait. Donc c'est un texte un peu paranoïaque, écrit à toute vitesse, qui imagine donc un monde où les jeux télévisés sont devenus des arènes mortelles. Le principe, un homme accusé à tort est lâché dans le pays, traqué par des chasseurs devant des millions de téléspectateurs. Et ce qui frappe donc dans le roman, c'est la vision d'un futur obsédé par l'audience, le spectacle et une télé qui dévore tout. On est en 82 et finalement Stephen King décrit quelque chose qui ressemble un petit peu à la télé-réalité moderne, qui est un peu moins morbide. Et un an plus tard, en France, le réalisateur Yves Boisset sort Le Prix du danger, adaptation d'une nouvelle de Robert Sheckley, publiée en 58. Et là, le pitch est quasiment identique. Un jeu télévisé propose à un candidat, joué par Gérard Lanvin d'ailleurs, de survivre face à des chasseurs, le tout filmé, mis en scène, transformé en spectacle national. Le film est en avance sur son temps. Visuellement, narrativement, l'univers ressemble déjà énormément à ce que proposera Running Man 4 ans plus tard. Et quand Running Man sortira, donc avec Schwarzenegger, Boisset criera au plagiat pur et simple.
La moto mandale, la moto qui vole.
Chers amis, chers téléspectateurs, quelle émission! Quels instants inoubliables nous venons de vivre. Dans quelques secondes, François, pour la première fois dans l'histoire du Prix du danger, François va franchir la ligne d'arrivée en vainqueur. Le voilà!
Et donc là, évidemment, Hollywood entre dans la danse. La MGM produit Running Man, donc avec Arnold Schwarzenegger dans l'un de ses rôles les plus iconiques. Mais voilà, les épreuves, la traque télévisée, le présentateur cynique, la production prête à tout pour l'audience. Tout ressemble beaucoup trop au film de Yves Boisset, tellement que le cinéaste français engage des démarches juridiques et déclare à plusieurs reprises que Hollywood s'est servi de son film comme blueprint. Après 11 ans de procédure en octobre 98, le tribunal de grande instance de Paris donne raison à Yves Boisset. Ce dernier recevra un dédommagement couvrant tout juste les frais de justice. Donc la sortie du nouveau Running Man change un peu la donne. Le réalisateur Edgar Wright a été clair. Son film ne sera pas un remake du film de 87, mais une adaptation fidèle du roman de Stephen King. Mais finalement, on peut se demander qui a copié qui, parce que le jeu télévisé mortel n'a pas été inventé par King, ni par Boisset, ni par Hollywood. On le retrouve dans un film qui s'appelle La 10e victime, avec Marcello Mastroianni et Ursula Andress en 1965. Il y a même un film qui s'appelle The Most Dangerous Game en 1932 qui reprenait déjà ses codes. Mais donc c'est intéressant de voir finalement ces histoires de droits d'auteur, de plagiat. Et donc ce film, donc Running Man, qui sort ce mercredi, réalisé par Edgar Wright, est finalement le dernier d'une lignée où plein de choses se retrouvent. Je ne sais pas si tu as vu les affiches de ce film, si tu as envie d'aller le voir.
J'ai vu les affiches et c'est notre génération. Donc moi, ça m'a fait direct penser au film avec Schwarzy.
Ah, tu l'as vu, celui-là ?
J'avais vu quand j'étais petit, qui m'avait fait flipper.
Ouais, c'était flippant, oui.
Ouais, c'était flippant. Et donc, je ne sais pas si je vais le voir, je me pose la question. Et ouais, tout ce que tu as raconté, ça m'a fait penser à une citation de la série The Studio, tu l'as vu ?
Bien sûr, extraordinaire.
Qui est cool aussi.
Qui est génial.
Qui est génial, où ils disent les bons artistes copient les plus grands vols. Les œuvres, du coup, moi, c'est pas du tout mon monde, c'est le sport. Mais je sais pas si c'est vrai, mais c'est vrai que de toute façon, on s'inspire tous de ce qui a été fait avant nous, on essaie de l'améliorer, de le rendre meilleur. Mais...
Ça existe le plagiat dans le hand ? On peut reprocher à quelqu'un d'avoir volé un geste technique ou un style ?
De toute façon, tu voles un style, tu regardes. Moi, quand j'étais petit, je regardais plein de joueurs, je me suis inspiré d'eux, des Suédois, des Russes, des Français. Après, pour les coachs, je pense qu'il y en a quelques-uns qui inventent des nouveautés, mais il y en a très peu. Il y en a beaucoup qui copient. En plus, maintenant, aujourd'hui, avec tous les réseaux, l'accès à toutes les vidéos, les numérisations, tu peux voir des matchs. Il y a encore, moi, je m'amuse souvent à voir des vieux matchs et à voir d'où vient une tactique qui a été jouée, que j'ai jouée, de me dire, putain, en fait, ça remonte en 70, il le jouait déjà. Donc, c'est assez marrant. Donc, ouais, je pense que c'est une thématique. Bon, après, c'est plus facile, je pense, dans le milieu artistique de sentir le plagiat et la copie.
Oui, oui.
Mais bon, c'est pas mon domaine, je veux pas juger.
Non, mais oui, je pense que.
Mais je pense que c'est intéressant.
Hein. Ouais, complètement. Nicolas Karabatic est notre invité ce soir. Il y a énormément de choses qu'on n'a pas encore abordées, parce que tu commences à Montpellier, ensuite tu vas en Allemagne, à Kiel, qui est dans le plus grand club du monde à l'époque, et puis tu as un retour à Montpellier en 2009, qui est un moment aussi important, puisque c'est le moment aussi où ton frère, Lucas, arrête le tennis, parce qu'à l'époque, lui, on n'en a pas parlé, mais c'est un jeune qui fait du tennis à un bon niveau, un très bon niveau, et il veut faire du hand. Et donc... C'est aussi pour ça. Est-ce que c'est dans quel ordre ça se fait ? Tu reviens à Montpellier pour lui, parce qu'il fait ce choix-là, ou c'est juste parce que tu as envie de revenir en France ? Je sais aussi que tu restes un peu après parce que ton papa tombe malade, donc tu as aussi envie d'être proche de la famille. Qu'est-ce qui motive au départ ton retour à Montpellier ?
C'est assez fou, parce que c'est vrai qu'en écrivant le livre, je m'en suis rendu compte. Ce départ de Kiel a joué en Allemagne, qui était le plus grand champion, on venait de gagner la Ligue des Champions avec Kiel, le plus grand championnat au monde, l'Allemagne, on jouait devant 10 000 personnes, 10 000 abonnés, quoi. On jouait devant 20 000 personnes en championnat. En fait, ça a été assez fou ce passage, parce qu'il y a tellement de choses qui ont coïncidé. Mon frère qui se remet au hand, alors que ça fait quasiment 9 ans qu'il fait du tennis, et était numéro 1 français à 14 ans, moi je m'imaginais aller le voir à Roland, faire les JO avec lui dans deux sports différents. Histoire incroyable. Donc, à fond derrière lui, il se remet au hand sans même en parler, sans en parler à notre père non plus. Alors, juste en parlant à ma mère qui l'aide sur ce coup-là.
Ta mère qui était sportive aussi, même si elle n'a pas travaillé dedans, mais c'était une femme sportive.
Qui a fait du sport, qui regarde plus de matchs de hand que moi. Un gros bisou, ma maman, qui s'y connaît presque aussi bien que moi. Et donc, ouais, il se remet au hand. En même temps, le club, donc à Kiel où j'étais, mon coach, pour lequel j'étais allé là-bas, j'avais prolongé mon contrat, un peu mon second père, nouveau mentor, il se barre. Et au même moment, moi, je veux partir. Je voulais le suivre parce qu'il partait dans un autre club. Au même moment, mon père qui tombe malade, cancer du pancréas. Donc, assez fou, quoi. En refaisant le livre, je me suis dit, mais c'est incroyable le nombre de circonstances qui se sont passées et qui ont fait que mon retour de Kiel à Montpellier a été possible, et ce qui m'a permis de rejouer avec Lucas. De vivre les deux dernières années de mon père et d'être ensemble en cocon familial et d'affronter ce drame ensemble et ce moment dur ensemble. Et donc voilà, il y a eu un concours de circonstances qui est assez incroyable et qui a fait que je suis parti de Kiel, où je venais en plus de cocher toutes les cases de mon rêve de tout gagner. J'avais fini le jeu à Kiel, j'étais champion du monde avec l'équipe de France, champion d'Europe, champion olympique. Meilleur joueur au monde, gagné avec des champions là-bas, champion d'Allemagne. Donc presque comme s'il y avait une première partie de ma vie qui se terminait. Et là, d'un coup, mon frère qui se met à faire du hand. Donc j'ai une nouvelle motivation, revenir jouer avec lui, lui apporter tout ce que j'ai appris en Allemagne auprès de ce coach, Noka, qui est une bible du handball. Oui. Et donc ça a été assez fou, ça m'a ouvert à presque une nouvelle carrière. Donc jouer avec mon frère, à partir de ce moment-là, c'est devenu un peu une obsession, parce que je me suis dit, c'est fou, je peux faire mon sport, ma passion, je peux le faire avec lui, Et toutes les émotions que j'ai vécues avec tous mes potes dans mes équipes, ben, je peux les vivre avec mon frère en plus, et ça va encore rajouter de la beauté.
Alors, y a aussi un peu après, évidemment, tu en parles dans le livre, cette fameuse affaire des paris truqués, et ça sert à rien d'en parler plus longuement que ça, parce que même dans le livre, tu dis, je suis pas là pour faire une révélation stupéfiante, tu acceptes à bout d'un moment la décision de justice, on sent que tu as envie que ce soit derrière toi, mais à ce moment-là, en tout cas, ton nom, tu le dis, il est associé à ça, il y a pour la première fois un peu de ta vie aussi des sifflets dans les stades. Quand tu pars à Barcelone, est-ce que c'est aussi pour fuir ça quelque part, ou pour animer d'un sentiment de revanche, pour te dire qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce que ce départ un peu après à Barcelone, qui est dans un énorme club, est-ce qu'il est aussi motivé par quelque part une envie peut-être de calme dans ta vie, et aussi une envie de revanche?
Bah, y a un petit peu de tout, parce que c'est vrai que cet épisode-là, comme tu le dis, l'idée dans le livre, c'était pas de refaire le procès, ouais. Il a été fait, je me suis défendu, voilà. C'était plus d'expliquer comment j'ai vécu la période, comment j'ai rebondi, c'est tout l'histoire de résilience, tout ça.
Exactement.
Et donc, c'est ce que je voulais expliquer, donc il y a un petit peu de tout, il y a cette colère que tu as au fond de toi, parce que tu connais d'un coup, tu passes, on en parlait tout à l'heure, de 2012, des Jeux Olympiques, où je suis partout en photo, dans des pubs, champion olympique une deuxième fois... Une côte d'amour, tu connais l'amour, et d'un coup tu connais le désamour, même la haine, les sifflets de ton public, donc c'est très dur. Et donc tu subis tout ça, ça te génère de la colère aussi, de la rancœur, donc au début tu t'en sers. Donc je suis pas tout de suite parti à Barcelone, j'ai fait 4 mois à Aix-en-Provence, donc j'ai pas voulu tout de suite me barrer pour pas être taxé de je me casse, je fuis, tu vois. Donc non, je suis resté dans le championnat de France, jouer à Aix-en-Provence qui devait descendre en deuxième division, et on s'est maintenu, j'ai joué avec Luca là-bas, on s'est maintenu, et après je suis parti à Barcelone. Donc ça m'a permis d'être sur place au début, de pas dire ouais, je me barre. Mais après le fait d'être parti à Barcelone, ça m'a permis de vivre pendant 2 ans loin de ce tumulte-là, puis ça s'est calmé, et après je suis revenu à Paris, donc je suis pas resté.
Bien sûr, complètement.
Ad vitam aeternam, mais oui,
il a fallu ce temps-là peut-être aussi pour dire que toi, peut-être tu fasses un peu la paix avec ça et avec cette espèce de désamour éphémère, parce que finalement ça dure jamais longtemps quand t'es un grand sportif et que finalement tu prouves sur le terrain, mais à ce moment-là, il y avait cette polémique-là qui te gâchait peut-être un peu la vie et le moral à ce moment-là.
Bien sûr, ça te gâche la vie, ça,
ouais.
Quand tu vis des moments comme ça. Et après, c'était aussi le propos du livre, c'est d'expliquer comment je l'ai vécu, comment passer au-dessus aussi, parce qu'au début, je me suis servi de cette rancœur, de cette colère, pour dire, ok, vous allez voir, je vais être encore meilleur.
Ouais.
Et donc, tu te sers de cette colère, cette résilience, tu fonces à travers le mur, et ça a marché. Sauf qu'au bout d'un moment, tu t'aperçois... Non, en fait, j'y pense tous les soirs. Dès quelqu'un qui en parle, ça me touche, ça me fait réagir. C'est bien, je m'en sers, mais au bout d'un moment, ça te ronge.
Bien sûr.
Donc, faut passer au-dessus, faut l'accepter, faut comprendre que cet événement, voilà, pour moi, ça fait partie de ma vie. Je le considère plus comme une tâche. Je me dis, en fait, c'est arrivé là. Ça m'a permis de comprendre tellement de choses sur la vie, sur mon ego aussi. Parce qu'il a chuté, j'ai dû me reconstruire. Et donc, maintenant, enfin, même si ça a été dur... Accepte-le,
ça
fait partie de moi. Ça a été un moment charnière. J'ai su rebondir. Maintenant, ça ne sert plus à rien d'y penser tous les soirs, de se dire si ça n'avait pas eu lieu. Ben, non, on s'en fout. Ça fait partie de ton histoire. Presque, sois reconnaissant parce que ça t'a permis de grandir aussi comme personne, comme être humain, et de comprendre beaucoup de choses sur toi, sur la vie, sur l'amour aussi. Et donc, accepte-le et sois fier de ce que tu as fait. Et c'est aussi une manière de dire son passé, on peut le regarder et on en fait ce qu'on veut. On peut se dire, soit on peut se poser en victime sur ce qu'on a vécu, ou on se dit non, en fait, ça a été un moment dur. J'ai su rebondir et j'ai le droit d'en être fier.
T'as su rebondir, et quelque chose qui me fascine, moi, chez les grands sportifs, c'est que t'as dit « Akil, j'ai fini le jeu ». Mais en fait, qu'est-ce qui fait que vous continuez toujours, vous avez encore cette espèce d'envie de titre? Pourquoi Federer, il a joué aussi longtemps? Pourquoi Cristiano Ronaldo, il joue aussi longtemps? Comment, à un moment, quand justement tu finis le jeu et tu coches toutes les cases que tu voulais cocher, qu'est-ce qui se passe dans votre tête qui fait que vous courez encore?
Je pense que quand on est un compétiteur... Comme je parle de mon expérience, comme je l'ai été, je suppose comme tous les grands sportifs que tu as cités l'ont été, ça part quand même au fond de soi de quelque chose le mot c'est pas malsain, mais d'un manque, un manque d'amour. Tu sais, tu te prouves des choses à toi-même, tu veux chercher des records, tu cherches un amour. Pour moi, c'était peut-être de mon père, pour les autres, c'est. Voilà, tu cherches quelque chose et ça te pousse, c'est une soif qui est. Ben, tu peux pas, tu peux pas terminer, t'es jamais rassasié en fait, et donc ça te pousse à aller loin, à repousser tes limites, à aller le plus loin possible, et t'as ça en toi, et donc voilà, finir, sauf que je me suis rendu compte à la fin que
le jeu,
finir le jeu, enfin, ça fait un peu mégalo, mais j'ai fini le jeu 3 fois, j'aurais pu le faire 4 fois, en fait j'aurais jamais été rassasié. Et ça, tu peux le garder. Ça, je l'ai compris aussi avec la fin, avec la fin de carrière, avec choses qui me sont arrivées à la fin de ma carrière. Que en gros, ça, tu peux le garder toute ta vie et être toute ta vie insatisfait, parce que voilà, cette volonté de compétition, ça part d'une insatisfaction. Et tu joues aussi sur l'insatisfaction. Tu vas chercher, tu vas être perfectionniste. Tu vas même quand c'est bien, tu vas regarder ce qui est mal pour t'améliorer encore. Et donc ça part très souvent, en tout cas, d'une insatisfaction. Et le jeu, moi, pour moi, le travail à la fin, pour terminer ma carrière et passer dans ma nouvelle vie, ça a été de travailler sur cette insatisfaction, comprendre que c'est passé à la vie et étancher la soif, être fier voilà, de ce que j'ai fait, comprendre que c'était une partie de ma vie et que maintenant il y en avait une autre qui s'ouvrait et que j'avais plus besoin d'être en compétition, j'avais plus rien à me prouver, à prouver aux autres et que je pouvais vivre sereinement.
C'est effectivement ce qu'on comprend dans le livre. Alors je propose d'écouter tout de suite un artiste qui est un poète, un chanteur, un performeur qui croise électro, soul et spoken word. Il sortira un album le 6 mars 2026 dont le tout premier extrait s'appelle It Was Always. On le découvre maintenant, il s'appelle Joshua Eden.
With a little bit of luck and a handful of courage, we will make it through the night and out to where the sun is, where the love is. Manifesting with my mates, bright faced and beaming, backseating Benji's Mazda. The world is loud but we sing louder. Pistol fingers through the window, my joy is a whistle, loud in its belief. After this something good is coming. My losses, they've taught me how to win. Maybe the reason I ain't that good at swimming, with wings, and the answer's right here in our hands. It always was. It's all down to us, and that much I trust. I see my own, and just as she spoke, all the lights turned green on our road. My friends hold me as I hold them. I should have told them more often. After dodging through the speakers, the morning rose to meet us. Sun on my skin, like all of my sins are forgiven. This is it. This is how we win, my friends. This is how we win.
It always was, c'est le morceau de Joshua Eden.
Mehdi Maizi sur France Inter.
Et Nicolas Karabatic est avec nous aujourd'hui pour le livre Ma plus belle victoire. Je t'avais demandé des recommandations. Tu m'en as donné 2, et notamment un artiste d'ailleurs qui sera notre invité demain, Aurel San. Mais l'album que tu as cité, c'est La fête est finie.
Écoute, l'histoire s'écrit en tournant les pages. Écoute. J'ai pris quelques notes. Si t'as l'impression que personne te comprend, c'est parce que personne te comprend. C'est plus facile à vivre une fois que t'en es conscient. Comment tu peux leur en vouloir, tu te comprends pas toi-même.
Donc ça, c'est un extrait du morceau Note pour trop tard, donc qui est présent sur La fête est finie, qui clôture La fête est finie, qui est un morceau assez génial. Pourquoi, Aurel San, pourquoi cet album?
Parce que je l'écoutais au moment où mes enfants venaient de naître.
Ouais.
Et qu'on en parlait tout à l'heure, je me suis rendu compte que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une production tellement énorme de contenu, que ce soit séries, films, podcasts, émissions, sons. C'est dur de s'y retrouver.
Ouais.
Et même, et ce que je recherche maintenant, c'est souvent quand je vois quelque chose qui m'a impacté, où je me suis dit, ça, sympa, je me suis retrouvé con, ça m'a fait. Je me suis pris un coup. Et c'est vrai que sur. Avec Oresan, avec ce son-là, je me suis dit, c'est incroyable, celui-ci,
ouais, ce morceau,
je vais le faire écouter à mes enfants.
Il est presque fait pour ça, ouais.
Il est presque à faire écouter dans toutes les écoles,
ouais.
Tu vois, et t'as d'autres morceaux qui sont géniaux dans tout l'album, mais voilà, ce morceau-là m'a marqué, et en plus, je connais un peu le frère d'Orelsan, et je sais qu'il a fait
donc
du
Clément, Clément, qui a réalisé notamment le documentaire, ouais. Ne le montre à personne.
Qui est ouf aussi.
Ouais.
Et je sais que j'avais lu dans une bio qu'Orelsan a fait du hand, a commencé avec du hand, après il était très basket et tout,
oui,
ça,
oui.
Mais qu'il a fait un peu de hand, donc voilà, ça m'a... Et donc je me suis dit, cet album-là, il m'a beaucoup parlé, hein, une période dans ma vie aussi où je me posais beaucoup de questions,
ouais.
La paternité, tout ça,
ouais, ouais.
Où on va, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi j'ai fait des enfants.
Est-ce que ça a changé, évidemment l'homme, mais aussi le joueur que tu étais, la paternité, le fait de devenir papa, c'est ça aussi qui t'a permis peut-être de pas uniquement penser à la victoire au titre et à penser un peu à autre chose dans la vie de tous les jours?
Ouais, carrément, ça fait partie du process, ça a été un accélérateur, le fait d'être papa, de plus être le centre de ma propre attention, en plus sportif de haut niveau, donc t'es
ouais.
De toute façon, d'une certaine manière, encore plus égocentré que,
oui.
Que d'autres personnes, donc ça m'a, ouais, je me suis pris un coup de fou, ça m'a renvoyé à plein de choses avec mes parents, avec mon papa, et je me suis dit, j'ai envie d'être un bon papa, mais comment on fait, la pression que ça met, le monde dans lequel on évolue aussi, qu'on va leur léguer, donc ouais, je me suis pris plein de trucs dans la gueule, et ça a remis beaucoup de choses en question, et ça a fait naître, ça a commencé à planter la petite graine de qu'est-ce que je veux faire plus tard, en fait je suis pas qu'un handballeur, qu'est-ce que je veux faire plus tard, quel exemple je veux être, qu'est-ce que je veux transmettre à mes enfants,
ouais.
Et aux autres aussi, à tous les enfants qui m'ont regardé, donc ouais, ça a été un vrai début, une vraie amorce de changement profond
pour
chez
toi.
Moi
Nicolas, c'est l'heure de la question qui tue.
J'ai peur.
Si j'ai réussi à effrayer Nicolas Karabatic, c'est déjà une victoire pour moi cette émission. La question, quel est pour toi le plus grand sportif français de tous les temps?
Waouh! Question très très difficile.
C'est très bien que si tu réponds pas à Zinedine Zidane.
Pour moi, c'est Zizou.
Normalement, c'est potentiellement déchéance de nationalité.
Non, j'allais dire naturellement Zizou. Ouais, pour moi c'est
non pour c'est
moi,
lui c'est pourtant on a, ouais c'est
pour moi c'est Zizou, et après bien sûr il y a dans la comparaison, il y a pour moi Tony Parker, Teddy Riner,
ouais.
Marie-José
Pérec,
il y en a tellement, Tony Estanguet aussi qui m'a fait vibrer en tant qu'athlète olympique, il y en a tellement, et puis on a tous aussi des critères différents.
Bien sûr. Non, mais c'est vrai que...
Ouais, Zizou...
En fait, il y a un truc qui est au-delà des statistiques, etc. C'est une forme aussi, on l'a vu même aux Jeux Olympiques, quand il était là, enfin, il y a une forme de... C'est presque devenu le visage, un peu, du sport français. Moi, je me souviens même, tu sais, quand l'équipe nationale de rugby fait une grande compétition en 99, à l'époque, on sortait de 98, et il était présent même dans les publicités. C'est comme si... Il était présent dans tous les événements sportifs qui concernaient de près ou de loin la France, tu sais. Il y a quelque chose un peu qui dépasse, je pense, même le simple fait du football avec lui.
Ouais, et moi, un de mes plus grands souvenirs, c'est quand il est venu me voir jouer à Aix-en-Provence. On en parlait tout à l'heure,
Jouais
à Aix-en-Provence, parce que lui, il a un centre à côté
Bien
de la
Z5.
Et en plus, il n'y avait pas encore la grande salle à Aix, il y avait une toute petite salle qui s'appelait Val de l'Arc, une vieille salle à 1000 personnes. Et il est venu voir un match,
incroyable,
donc je me suis retrouvé, waouh. Et ouais, c'est un rêve et je l'ai croisé plein de fois comme ça, mais j'ai jamais vraiment eu l'occasion de discuter avec lui. Mais c'est une idole, ça a été une grande inspiration pour moi, Zizou.
Nicolas, c'était un vrai plaisir de t'avoir aujourd'hui. Merci beaucoup. Vraiment, rappelle donc, il s'appelle Ma plus belle victoire. Il est disponible. Merci à toi d'avoir été présent et aussi généreux aujourd'hui. Et merci aux personnes qui ont préparé cette émission. Alexia Lacour, Redouane Tella, une émission réalisée par Gaëtan Colli. La programmation musicale est signée Jean-Baptiste Audibert. À la technique ce soir, c'était Nicolas Delmas et Guillaume Roux. Merci aux équipes web et vidéo. Et donc, demain, on se retrouve à la même heure avec, on l'a dit, Orelsan. Merci.